Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Pascal Moulegua. Il est journaliste et il est correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Bonjour Pascal Moulegua.
Bonjour Guy Maté à tous vos auditeurs.
Maître Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central. Bonjour Madame Annie Massengou.
Bonjour Monsieur Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs.
Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Bonjour Monsieur Abdourahmane Dia.
Bonjour Guy, bonjour à tous vos invités, également aux auditeurs de Radio Okapi.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine et l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Pascal Moulegua, journaliste et les correspondants de la Radio France Internationale RFI en RDC, de Madame Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Au menu de cette émission, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts relatifs au contentieux des résultats des législatives nationales de décembre 2023, levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort et enfin la situation humanitaire dans l'Est de la RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la rencontre envisagée entre le président congolais et son homologue rwandais. En effet, le président rwandais Paul Kagame donne son accord pour rencontrer son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, l'a annoncé lundi 11 mars à Luanda, à l'issue d'un tête-à-tête entre le président angolais João Lourenço et celui du Rwanda. Les lieux et la date de cette rencontre annoncée entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame devront être déterminés par le chef d'État angolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, a expliqué le patron de la diplomatie angolaise. Elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du médiateur pour amener la paix et la réconciliation dans la région, notamment dans l'est de la RDC. Toujours selon le ministre angolais, le Rwanda a accepté les principes déjà admis par la partie congolaise selon lesquelles les délégations ministérielles travaillent avant d'atteindre cette étape. Le voyage de Paul Kagame à Luanda est intervenu un peu moins de 2 semaines après celui effectué par Félix Tshisekedi dans la capitale angolaise. Lors de ces voyages, il avait été annoncé que Félix Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et de la rébellion en RDC, a rappelé le ministre angolais des Affaires étrangères. Pascal Moulegua, vous êtes ici aussi avec nous. Les deux présidents, les Congolais et les Rwandais, acceptent finalement les principes d'une rencontre, mais les doutes persistent encore parce qu'il faut souligner que le président Félix Tshisekedi conditionne cette rencontre, n'est-ce pas, par notamment les retraits de l'armée rwandaise des territoires congolais et le retrait du M23 des localités conquises récemment. Vous voyez le Rwanda se soumettre à ces conditions posées par le président Félix Tshisekedi?
Écoutez Guy, jusqu'à là, moi je considère qu'il y a toujours un dialogue de sourds qui est en cours, parce que le fait pour Tshisekedi d'exiger le retrait du M23 des zones occupées depuis maintenant 2 ans, en fait c'était déjà les préalables qu'il avait imposés dès juillet 2023, mais quand même il y a une chose qui a évolué dans cette négociation qui est menée par l'Angola, c'est que pour la première fois, le fait pour Kagame d'accepter de négocier avec la RDC pour le M23, il reconnaît directement en fait que le Rwanda soutient le M23. Là où j'ai dit encore qu'il y a un langage de sourd, parce que jusque-là, le M23 ne veut pas accepter que son parrain, c'est le Rwanda. Et donc, on va rester sur ces mêmes fils, mais quand même, il était très important, après 6-7 mois de passe-passe entre les deux capitales et des diatribes, quand même, qu'il y ait une désescalade. C'est là où nous en sommes pour le moment. Mais reste à savoir quand aura lieu cet tête-à-tête entre Tshisekedi et Paul Kagame. N'oubliez pas que le cahier des charges du M23, il est bien connu. N'oubliez pas aussi que les préalables du gouvernement, des fois, sont irréalistes. On se rappelle que même l'armée angolaise devrait être déployée à Goma pour superviser les retraits du M23 de ces localités, pour les cantonner sur une colline, ce qui quand même n'avait pas marché. L'autre chose, l'autre aspect à soulever pour les auditeurs, c'est qu'il y a le double langage de la communauté internationale dans cette médiation, ce qui au même moment, la communauté internationale appelle au dialogue, donc encourage les efforts, y compris même la MONUSCO, qui encourage les efforts de la médiation angolaise portée par l'Union africaine. Au même moment, vous avez la SADC et l'Union africaine qui encouragent le déploiement des troupes de la SADC. Donc, dans la diplomatie, en fait, ce sont des options qui sont mises à la disposition du gouvernement congolais, voir quelle est l'option qui va marcher, mais il se voit que 80%, c'est beaucoup plus la piste de dialogue qui est encouragée.
Merci Maître Ani Massengou. On rappelle que ce n'est pas la première fois que ces deux présidents, n'est-ce pas, acceptent de se rencontrer, mais chaque fois, on s'y rappelle il y a quelques années à Addis Abeba, ils se séparent toujours en queue de poisson, ils se séparent sans parvenir, n'est-ce pas, à une conclusion. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci sera la bonne?
Merci beaucoup Monsieur Guy Maté. Moi, la lecture que j'ai faite de cette situation, c'est que c'est une situation...
Allô? Voilà, je crois qu'elle a connu un problème avec les réseaux. On va essayer de la rappeler. Abdourahmane Dia, on l'a dit, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que les deux présidents vont se rencontrer. Mais là, on est dans un contexte où il y a des nouvelles donnes. Hein. Il y a cette avancée des rebelles du M23 qui gagnent du terrain sans résistance en face. Il y a aussi toutes ces pressions que la communauté internationale exerce à l'endroit du Rwanda, lui demandant, n'est-ce pas, de cesser tout soutien au M23. Avec ces deux donnes, on peut espérer voir les deux chefs se faire mutuellement des concessions afin, n'est-ce pas, d'évoluer dans le sens de trouver la solution à cette question de l'Est.
Alors, il faut dire, Guy, que dans tout conflit ou dans toute guerre, il faut forcément des concessions de part et d'autre. Et il est clair que si la rencontre doit avoir lieu, le président Tshisekedi a clairement fait savoir qu'il faut que les troupes rwandaises se retirent donc du territoire congolais et que le M23 se retire de certaines des localités. Donc c'est clair que c'est une demande du président Tshisekedi. Est-ce que son homologue rwandais va répondre favorablement? Et effectivement, comme l'a dit Pascal, le fait qu'il accepte de discuter, et je pense que ça, en tout cas, si on se base sur les rapports des Nations Unies, plusieurs rapports, et même des États-Unis, la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais ne fait pas de doute. Même dans l'évolution du langage de certaines agences de presse, ils ne font plus de doute dans ce langage. Certaines agences de presse parlent maintenant du M23 appuyé par les troupes rwandaises. Donc je pense que même si, en tant que journaliste, nous continuons à dire que le Rwanda nie la présence de ses troupes sur le territoire congolais, mais il est clair que c'est une question qu'il faut évacuer s'il faut espérer une rencontre, en tout cas si on se base sur la position congolaise. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais il faut espérer au moins qu'on puisse voir les lignes bouger de ce côté-là, au moins que le Rwanda fasse une annonce dans ce sens, parce qu'il est effectivement souhaitable qu'on se retrouve autour d'une table pour régler cette crise. Je ne vois pas comment les armes peuvent régler cela, autrement on risque de se retrouver, de continuer à avoir tous ces groupes armés, pas seulement le M23. Le M23 fait l'actualité dernièrement, mais il y a tellement de groupes armés dans l'est de la RDC que si au moins les voisins de la RDC ne jouent pas franc jeu, je ne suis pas en train d'accuser le Rwanda, mais il faut que on puisse trouver une solution entre la RDC et ses voisins de façon plus globale.
Madame Annie Masseng, vous êtes là?
Je suis là, Monsieur Guimaté.
Merci beaucoup, Abdou Rahman Dia. Merci pour votre intervention. Madame Annie Masseng, je disais qu'on se rappelle que ce n'est pas la première fois que ces deux chefs d'État vont, n'est-ce pas, se rencontrer. Et chaque fois, ils se séparent en quête de poisson. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci, c'est la bonne?
Je suis un peu plus pessimiste hein, par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce que la RDC peut aller chercher auprès de dans cette négociation à partir du moment où la RDC n'a jamais mis ses pieds au Rwanda pour agresser la population rwandaise ou déstabiliser l'État rwandais? C'est l'État rwandais qui vient déstabiliser la RDC. Alors, c'est un peu plus compliqué à comprendre. La négociation va porter sur quoi? Pour dire au président Kagame de quitter la RDC, de prendre ses militaires et de les amener chez lui, il faut aller passer, se mettre autour d'une table de négociation. Alors qu'on sait que depuis très longtemps, ces occasions-là ont permis l'infiltration de l'armée congolaise. Je ne crois pas que ce soit une option, une bonne solution. Lorsqu'il y a un problème, il faut le traiter froidement. Et dire à celui qui viole les territoires d'autrui qu'il est en train de violer les territoires d'autrui, s'il y a des sanctions, appliquer les sanctions, point barre.
Merci Pascal Moulegua. Est-ce que ce n'est pas justement ça l'obstacle dans ces processus de pacification de l'Est du pays, cette divergence de vues qui existe entre les deux gouvernements? Et le gouvernement congolais accuse, n'est-ce pas, sur base des rapports des experts des Nations Unies, accuse les Rwandais de soutenir les M23. Mais les Rwandais n'ont jamais reconnu soutenir ces mouvements rebelles. On sent que les opinions ne changent pas, les opinions n'évoluent pas. Est-ce qu'on peut espérer parvenir à une solution idoine à la crise qui sévit dans l'Est de la RDC?
Tacitement, les positions n'ont pas changé. Mais les faits, parce que le communiqué angolais est clair, Paul Kagame a accepté un accord de principe. Donc le fait d'accepter de négocier avec Kinshasa autour du M23, ce qui est diplomatiquement, ce que le Rwanda reconnaît justement qu'il a des troupes au nord Kivu. Le fait aussi d'accepter de négocier avec Tshisekedi autour du M23 et des troupes rwandaises dans l'est de la RDC, c'est un mea culpa en fait du Rwanda qui doit être pris au sérieux. Mais quand même, il y a une évolution. Peut-on s'attendre à la résolution de cette crise par voie diplomatique sans faire des concessions? Ce serait totalement impossible. On se rappelle même de 2012. D'ailleurs, il y a eu plusieurs rounds. Hein. En 2012, on a connu les dialogues de Kampala avec Yoweri Museveni. On a connu les rounds d'Addis Abeba. Et puis, on a connu l'accord de Nairobi. Mais le gouvernement congolais semble avoir exécuté quelques points inscrits dans les cahiers de charges, mais on ne peut pas quand même tout respecter. Voilà. C'est ça en fait que je me rappelle qu'il y a un analyste qui disait qu'il faut en fait évaluer l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba pour savoir la RDC, parce que même la résurgence du M23 relève de cette frustration de voir que certaines options n'ont pas été respectées par la partie gouvernementale. Mais là maintenant, la prochaine table à Luanda, ils vont parler de quoi? Kagame va-t-il les dire ouvertement qu'il soutient les M23 et a déployé ses troupes? Bon, pourquoi? L'autre question, c'est pourquoi? Il vous dira que les Tutsis sont persécutés au Congo, ce qui est totalement faux à en croire, en fait, à en croire le gouvernement congolais et plusieurs rapports. Donc, quand on accepte de négocier, il faudrait déjà aussi que la partie congolaise sache que quand vous négociez, il faut faire preuve de concessions, d'énormes concessions, sinon il n'y aura pas d'évolution, alors qu'il y a déjà plus de 700 000 nouveaux déplacés. Pendant que vous et moi, nous sommes à Kinshasa sous climatiseur, il y a des gens qui ont passé plus d'une année Il passe nuit à la Belle Étoile et cette guerre, c'est que vous ne savez pas, bon, ce n'est pas que vous ne le savez pas, mais c'est peut-être une image qu'on ne fait pas trop voir, mais cette guerre coûte énormément au trésor public congolais.
Merci, on prend une petite pause hein, avec la maladie d'amour de Michel Sardou et on revient juste après.
Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, elle court. La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe, par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui vole. Elle court la maladie d'amour à 77 ans. Elle chante la rivière.
C'était la maladie d'amour avec Michel Sardou. Michel Sardou, c'est chanteur et comédien français qui a fêté son 77e anniversaire le 26 janvier dernier. On revient à l'actualité cette semaine. La Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux des résultats des législatives nationales de décembre 2023 a réhabilité mardi 12 mars plus de 40 députés nationaux. Cette institution juridique a ainsi rendu ses arrêts après près de deux mois de la publication provisoire des législatives par la Commission électorale nationale indépendante CENI. À travers ces arrêts, la Haute Cour a donné acte à 21 désistements et déclaré irrécevable 525 dossiers et 400 autres recevables mais non fondés. Deux membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, AG Matembo et Serge Bati, ont vu leur scrutin être annulé au profit des nouveaux entrants à la Chambre basse du Parlement. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant définitifs et inattaquables, définissent la composition de la nouvelle Assemblée nationale de la 4e législature et permettent d'identifier les différentes forces politiques au sein de cette institution. Pascal Moulegua, vous êtes journaliste et correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Vous avez souhaité nous parler de ces sujets. On vous écoute.
Ah oui, justement, c'est tombé comme un couperet avec l'invalidation ou bien les renouvellements. L'Assemblée nationale a été revue à 10%, au moins, des élus qui avaient été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Mais il y a quand même eu une vague de protestations parce qu'il y a quand même quelques cas flagrants qui ont été étalés dans la presse, c'est que les tiers de la quarantaine des députés invalidés, en fait, ont protesté et estimé qu'il y avait des erreurs matérielles. C'est par exemple le cas, je peux donner un cas qui est tout à fait simple. Vous avez par exemple dans les territoires des Kabarios, vous avez un jeune de l'AFDC, Serge Bati, qui a été proclamé par la CENI comme étant premier sur la liste dans sa circonscription et son élection n'a pas été contestée. Mais vous trouvez qu'il y a un autre candidat malheureux qui a interjeté appel à la Cour constitutionnelle, qui n'a pas attaqué l'élection de Serge.
Qui a attaqué une autre personne.
Voilà. Et voilà, et on a invalidé une autre... C'est Serge qui a été invalidé au lieu d'invalider une autre personne. Ce n'est pas seulement à Mekabaré, c'est la même chose à Lubumbashi, la même chose à Moamba. Vous avez vraiment plusieurs candidats en fait qui se plaignent de cela. On se dit, est-ce que la Cour constitutionnelle, après 2 mois d'un travail, avec un budget disponibilisé pour ça, on se dit que la Cour constitutionnelle au moins s'est préparée depuis 3 ans pour traiter les contentieux, peut-elle nous produire aujourd'hui une liste définitive qui est contestable? C'est aussi ça le problème. On se dit, cette fois, comme en 2019, la Cour constitutionnelle va-t-elle encore reconnaître qu'il y a eu des erreurs matérielles? Ce qui est en fait une pure invention dans les droits constitutionnels congolais. Parce que là, déjà, il y a des frustrations. On se dit, il y a par exemple l'AFDC de Modeste Baïti qui a perdu autour de 9 députés. Vous avez l'IDPS qui a gagné 10 sièges, vous avez l'MLC de Jean-Pierre Bemba qui a gagné 2 sièges supplémentaires, l'UNC de Vital Kamerhe en a perdu 4, vous avez les AB50 de Julien Paluku qui a perdu 3 sièges, AVCA de Didier Boudimbou qui a perdu 1 siège, mais quand même aussi la nouveauté dans tout ça, c'est que l'opposition n'a perdu aucun siège.
Ok, voilà. Oui, alors, au-delà de ces contestations, avec ces arrêts, on sent que l'IDPS consolide, n'est-ce pas, sa position. L'UNC également est allié qui vient, n'est-ce pas, à la deuxième place. Mais, vous l'avez dit, hein, l'AFDC qui a perdu beaucoup de députés, et il était à la troisième place, mais aujourd'hui, avec ces arrêts, c'est plutôt le regroupement politique de Tony Kankou qui occupe la troisième place, et l'AFDCA occupe désormais la quatrième place. Est-ce qu'on peut dire que ces arrêts ou cette liste définitive rebat les cartes sur le plan politique?
Oui, ça rabat justement les cartes. Politiquement et clairement, c'est pour dire à Modeste Baïti de ne pas rêver d'être président de l'Assemblée nationale. Ça, là, c'est clair. Avec cette nouvelle configuration, on ne sera pas surpris. Le Premier ministre proviendra de l'UDPS. On ne sera pas surpris. C'est surtout tout à fait normal que le président de l'Assemblée provienne de l'UNC. Et en troisième position, on ne sera pas non plus surpris que le futur président du Sénat provienne du regroupement AAP de Tony Kankou. Donc, et puis, c'était aussi quand même pour dans l'Union Sacrée avoir 2 leaders d'une même province, le Sud Kivu, vous avez Vital Kamerhe et Modeste Baïti. La gestion de leurs ambitions au sein de l'Union Sacrée, en fait, ce n'est pas une tâche facile pour Tshisekedi. Maintenant là, la voie elle est dégagée. L'INC consolide sa deuxième... Bon, on n'a pas consolidé parce qu'après même avoir perdu 4 sièges, l'INC a gardé sa deuxième position. Reste à savoir si l'IDPS acceptera que l'INC dirige l'Assemblée nationale. N'oublie pas que dans une majorité, dans un régime aussi semi-présidentiel, l'Assemblée nationale, en fait, c'est un fusible. Et là, on y place, en fait, que des lieutenants de première heure. Pour l'IDPS, 10 de députés de plus, c'était une façon de s'affirmer aussi face au PCR qui était mené par Vital Kamerhe pour dire que nous avons consolidé, en fait, nos rangs. Et donc, c'est à nous d'imposer nos règles.
Merci, Madame Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central. Ces arrêts de la Cour ne satisfont pas tout le monde. Hein. Pascal Moulegua l'a relevé. Hein. Beaucoup de gens se sentent lésés. Il y a même des partis politiques qui ont décidé, n'est-ce pas, de saisir la même Cour pour rectifier les erreurs matérielles. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette Cour puisse se référer à la jurisprudence de 2019 où certains candidats invalidés par la haute cour avaient été réhabilités par la même juridiction? Est-ce qu'un tel scénario est possible aujourd'hui encore, Madame Annie Massengou?
Bon, je pense que, comme il y a déjà une jurisprudence, comme vous le dites, la jurisprudence est aussi source de droit. La Cour constitutionnelle peut toujours, parce que l'œuvre, c'est l'œuvre humaine, on peut toujours tomber dans des erreurs d'appréciation ou peut-être qu'on n'a pas, été trop vigilant. Moi, je pense qu'il faut, quand même revenir pour rétablir ceux qui sont injustement invalidés, les remettre dans leurs droits.
Merci, Abdourahmane Dia. Vous êtes journaliste à La Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Nous l'avons dit ici, hein, la Cour a rendu ses arrêts et la Constitution dit que les arrêts de la Cour ne sont pas susceptibles de contestation. Mais là, ce sont des arrêts qui sont contestés. Et à votre avis, quelle est la meilleure façon de gérer toutes ces personnes qui se sentent lésées par ces arrêts de la Cour constitutionnelle au moment où, justement, les pays cherchent à consolider ce qu'on appelle la cohésion nationale face à la situation des guerres qui prévaut dans l'est de la RDC?
Alors, il est rare qu'une décision de justice fasse l'unanimité, ça c'est clair, et ça ce n'est pas valable que pour la RDC. Je suis en train de suivre ce qui se passe dans mon pays d'origine, le Sénégal, avec toutes ces décisions du Conseil constitutionnel qui sont aussi qui ne sont pas susceptibles de recours. Bon, il y a des candidats lésés comme Karim Wad, le fils de l'ancien président, qui a contesté et qui est allé à la Cour suprême aujourd'hui, débouté encore. Il ne sera pas content, mais la loi est dure. c'est malheureusement ça. Je pense que le fait de pouvoir faire recours devant une juridiction, moi je pense que tout le monde devrait en profiter, et c'est le cas un peu avec la RDC. Et s'il y a encore possibilité de recours, moi je dis pourquoi pas. Mais il faut aller jusqu'au bout, et après, même si les décisions ne sont pas en notre faveur, nous devrons nous plier à cela. C'est un peu aussi la règle du jeu. J'en profite un peu pour aussi dire que la démocratie, c'est aussi des institutions fortes, à commencer par la justice. Et je pense que les autorités dans tous nos pays devraient travailler à renforcer cette institution judiciaire, la rendre plus forte, plus indépendante. Et la démocratie en gagnerait. Et je pense que c'est un processus en cours dans tous nos pays. Il est important que les autorités politiques, l'exécutif donnent à la justice le rôle qui est le sien dans le jeu démocratique. Et je pense que c'est une bonne chose que les acteurs politiques puissent avoir cette chance de recourir, même s'ils sont pas contents, malheureusement. Au moins, ils ont encore un recours et qu'ils aillent jusqu'au bout. Et maintenant, à l'arrivée, que tout le monde respecte les décisions au final. Moi, je pense que c'est un peu ça.
Merci. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. C'est ce samedi 16 mars qu'interviendra l'enterrement de l'artiste et musicien Langu Massiama, dit Chaka Congo. On rappelle qu'il est mort le 26 janvier dernier à Kinshasa. Pour lui rendre hommage, on va écouter Compréhension. C'est classique de Lita Bembo, enregistré en 1985 à Bruxelles. C'est grâce au playback, n'est-ce pas, de cette chanson réalisée à la RTNC à l'époque OZRT, que le public avait découvert Chaka Congo. On écoute donc Compréhension de Lita Bembo et on revient juste après les journaux de 8 heures. Hey, hello, you're the one I saw. Now for friend, I know. Hey, hello, you're the one I saw. Now for friend, I know. Hey, hello, you're the one I saw. Now for friend, I know. Hey, hello, you're I'm gonna go to the hospital.
Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la rencontre envisagée entre le président congolais et son homologue rwandais. Nous avons également analysé les arrêts rendus récemment par la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux des élections législatives de décembre 2023. Participe à cette émission Pascal Moulegua, il est journaliste et les correspondants de la Radio France Internationale RFI en RDC, Madame Annie Mastengu, elle est membre de la société civile du Congo central, et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Désormais, toute personne condamnée à la peine de mort sera exécutée. Le gouvernement a décidé d'élever les moratoires sur la peine capitale. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres du 9 au février dernier, selon une note circulaire de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dans cette note, adressée le 13 mars au chef des institutions, dont le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour, le premier président de la Haute Cour militaire ainsi que l'auditeur général des FRDC, Rose Mutombo, demande l'application de cette décision d'en assurer une large diffusion auprès de leurs offices. Maître Annie Mastengu, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Nous savons que la RDC a signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et jusque-là n'avait jamais signé le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort. Et depuis 2003, la RDC avait cessé d'appliquer dans sa quintessence cette sanction qui est la peine de mort, mais ne l'avait pas abolie. Et en lisant la circulaire du ministre de Justice, on en a fourni des raisons. Les pays étaient en train de passer par des moments très difficiles, très compliqués, le moment où toute la population devait se souder la main pour pouvoir mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui agresse la RDC. Mais il se constate malheureusement que beaucoup de gens s'amusent à mettre en péril, beaucoup de Congolais évidemment, s'amusent à mettre en péril les vies des autres Congolais. Et s'associent avec les groupes armés, les rebelles, ou sont parfois utilisés par les États étrangers, comme l'a dit le ministre, pour déstabiliser le pays. On ne peut pas être complice du malheur de son propre pays. Chaque citoyen sérieux doit se battre pour la sécurité de son pays. Et comme vous le savez, ce n'est pas dans tous les cas où on appliquera la peine de mort. Pour vous dire qu'elle n'a jamais été abolie, à la place, on était en train de condamner, au lieu de la peine de mort, condamné à perpétuité, c'est-à-dire vous faites une prison à vie, mais le code pénal n'a jamais changé. Vous verrez à l'article 5, quand on parle des sanctions applicables aux infractions, la première sanction qui vient, c'est la mort. L'article 6 même appuie pour dire que celui qui est condamné à mort est exécuté suivant les mots déterminés par le président de la République. C'est-à-dire, le moratoire a été décrété, c'est comme dans le langage militaire, on dirait cesser le feu. Mais on n'a pas arrêté la guerre.
Voilà, donc vous avez rappelé que ça a été suspendu, mais on n'a jamais aboli. Mais peu importe les motivations du gouvernement, et Madame Annie Massengou, vous ne pensez pas que la levée de ces moratoires avec cette évolution, n'est-ce pas, de la perception de la vie humaine dans la société, et surtout que notre constitution elle-même consacre la sacralité de la vie, vous ne pensez pas que la RDC risque de, n'est-ce pas, de se mettre à dos toute la communauté internationale ainsi que toutes ces organisations de défense des droits de l'homme?
La sacralité dans la Constitution ne demande pas à ce que les uns ôtent aux autres leur vie. C'est parce que vous avez ôté la vie de quelqu'un, on vous aide aussi à ôter. Vous savez que parfois, comme on dit, au grand mot, grand remède, c'est aussi parfois un principe qui aide à décourager ceux qui continuent à persévérer dans le mal. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais condamné quelqu'un à mort. Mais regardez la recrudescence du banditisme même sur toute l'étendue de la RDC. Les gens se donnent le luxe de venir à autant de personnes, 30 personnes, dans une maison de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils entrent avec machette, avec, revolver et tout ça. Et on tire facilement la personne et elle est partie, sans raison valable. Simplement parce qu'on en voulait, on voulait lui arracher ce qui lui appartient. Ceux qui sont en train de tuer à l'Est, regardez combien la population est devenue errante à l'Est de la RDC. C'est à cause des gens inconscients qui viennent, qui espionnent le pays, qui trahissent le pays, juste pour des intérêts égoïstes. Alors, parfois, il faut appliquer des sanctions sévères qui permettront de décourager les gens à pouvoir aller dans des considérations un peu de nature à stopper facilement la vie des autres sans remords.
Merci Madame Annie Massengou. Pascal Moulébois, beaucoup d'observateurs estiment que la RDC n'est pas préparée, n'est-ce pas, à assumer les conséquences d'une telle décision, étant donné, selon ces observateurs, étant donné que certains préalables ne sont pas encore accomplis, notamment la réforme de la justice, hein, une justice qui a été qualifiée même par les chefs d'État des malades. Et donc ces observateurs craignent l'organisation des procès bidons qui peuvent, n'est-ce pas, déboucher sur l'exécution des personnes innocentes.
Oui, des procès bidons et surtout expéditifs. Le président lui-même qualifiant la justice des malades, abolir la peine de mort serait perçu comme donner un fusil d'assaut à un malade mental, en fait. Comme vous l'avez dit, déjà, Madame Annie, elle est juriste, et je crois, elle n'oublie pas d'abord que la peine de mort est un legs du colonialisme, d'abord. La peine de mort, elle est cruelle, elle est dégradante, vous voyez. Il n'a pas été aboli, mais le moratoire a été imposé quand c'était en 2003, là on était encore en pleine guerre du Congo. Mais cela n'avait pas empêché le gouvernement de suspendre l'application de la peine de mort. Donc aujourd'hui, on ne peut pas brandir la guerre dans l'Est, quand bien même nous ne sommes pas en guerre, parce que le Parlement n'a jamais proclamé l'état de guerre. Nous ne sommes pas en état de guerre. Juridiquement, on n'est pas en état de guerre. C'est un conflit armé. Donc on ne peut pas brandir cela pour dire, en fait, non, le moment est venu pour appliquer cette peine de mort. Moi, je pense en fait qu'il faut d'abord réformer cette justice. Je pense qu'il y a beaucoup de préalables. Et surtout, moi je suis journaliste, mais au moins les trois quarts des procès que je couvre, surtout dans les juridictions militaires, la peine de mort est distribuée comme des cacahuètes. J'imagine si chaque mois, si chaque année, on va exécuter plus de 1000, 1200 personnes, pour quel intérêt? Mais politiquement, je sens que c'est juste une mesure qui a été prise pour dissuader les traîtres, les espions, sans oublier que l'espionnage est un phénomène mondial. Il y a des espions partout. Des traîtres, ça dépend aussi des intérêts. Okay. Et donc là, à ce stade, le pays va bien sûr se mettre à dos toute la communauté internationale, un pays qui bénéficie au moins à 40% du budget financé par l'appui extérieur, avec l'appui du FMI, Banque mondiale et consorts. Et aujourd'hui, lever ces moratoires, aujourd'hui, ce n'est pas une image positive que le pays envoie, surtout vis-à-vis de ses partenaires traditionnels.
Merci Abdourahmane Nadia. Comment vous réagissez à cette décision du gouvernement congolais portant lever du moratoire sur l'exécution de la peine de mort?
Moi, je pense que je comprends les motivations liées aux éléments ou au caractère dissuasif de la peine de mort, mais je pense que ceux qui sont pour opposer les critiques de la peine de mort, notamment les organisations des droits humains comme Amnesty International, ont démontré sur la base d'études que ce n'est pas forcément dissuasif et qu'il y a des pays où la peine de mort existe, mais que les crimes comme les meurtres sont aussi très nombreux. Bon, aux États-Unis, c'est un cas patent, notamment dans les États du Sud où la peine de mort existe encore. C'est vrai qu'en termes de criminalité, des États comme New York, des États un peu progressistes comme New York où la peine de mort n'existe pas, il y a un peu plus de crimes, mais on a plusieurs types de crimes de sang, notamment des meurtres qui se passent aussi dans ces États du Sud, qui sont très conservateurs et qui pratiquent encore la peine de mort. Même en Afrique, c'est vrai que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont aboli la peine de mort. Donc c'est un débat, je pense, légitime. L'autre aspect, vous l'avez soulevé, c'est peut-être les erreurs judiciaires. Je pense que ceux qui s'opposent à la peine de mort aujourd'hui, en fait, craignent un peu qu'on exécute des innocents. On a vu à plusieurs reprises, avec les avancées de la technologie, les avancées concernant, par exemple, les ADN, des prisonniers qui ont passé 20 ans de détention ont été blanchis. Finalement, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas les auteurs des crimes dont ils étaient accusés. Donc je pense que, et ça revient à la question des procès expéditifs dont parlait Pascal. Je pense qu'il faut qu'on fasse un peu attention, malheureusement, si pour éviter d'exécuter des personnes innocentes, parce que ça peut arriver, que plus tard un procès soit révisé ou que de nouvelles évidences, de nouvelles preuves surgissent et que ces personnes soient innocentées. Donc c'est un peu, je pense, là où se situe le débat. Mais je comprends un peu les motivations des autorités à tout faire pour que, voilà, que ces personnes qu'on soupçonne de collaborer avec l'ennemi puissent payer le prix. Mais je pense que déjà une peine à perpétuité ou les travaux forcés sont quand même un lourd prix à payer. Donc je pense que c'est un débat très légitime. Mais vraiment, l'inquiétude aussi, elle est légitime, qu'on ne se retrouve pas à exécuter des personnes innocentes.
Oui, Abdourahmane Dia, cette décision, est-ce un recul ou une avancée?
Il m'est très difficile de juger, mais je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous en sommes, beaucoup de pays sont en train de se passer de la peine de mort. Et voilà, le fait de lever le moratoire pourrait être perçu comme un recul, mais bon, qui suis-je pour juger? Je pense que si je me base en tout cas sur ce que les organisations de défense des droits humains disent, je pense que ça, ils considèrent cela comme un recul, puisque il y a d'autres formes de punition, comme les travaux forcés, perpétuité, et ça peut donner le temps à la justice de voir s'il y a peut-être d'autres éléments qui surgissent, parce que voilà, comme je l'ai dit, la grosse inquiétude, c'est les erreurs judiciaires.
Merci. Oui, Pascal voulait ajouter un mot.
Oui, justement, donc ce que Abdourahmane Dia disait, c'est qu'il faut que cette mesure soit accompagnée par des mesures d'encadrement, voir si au-delà des juridictions civiles ou militaires, si il peut y avoir une chambre peut-être d'exception pour juger cas par cas sur la nécessité soit d'exécuter une personne ou pas. Sinon, on verra les mêmes... L'État aussi ne peut pas à chaque fois fléchir face aux tendances des activistes. L'État peut s'assumer et doit s'assumer. Et donc, en ce moment ici, la décision est tombée, même si elle a été prise, ça il faut le relever, par un gouvernement démissionnaire. Ça associe un débat, en fait, par un gouvernement démissionnaire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gens pour se dire, un Kuluna qu'on a attrapé, Mbayamakala, et qui a été jugé et condamné à mort, est-ce que vraiment il faut l'exécuter tout de suite? L'autre problème aussi de notre arsenal juridique, c'est que vous avez des gens qui sont immédiatement jugés, en cas de complicité, ils sont immédiatement jugés devant la Cour de cassation, devant la Haute Cour militaire, où il n'y a pas de possibilité de recours. On peut comprendre pour certaines infractions, vous partez d'un tribunal de grande instance jusqu'à la Cour d'appel, Cour de cassation, vous avez toutes les possibilités de voir votre peine être réduite. Mais pour la plupart, ce n'est pas le cas.
Merci, on prend une petite pause en écoutant justement Droits de l'homme de Kofi Olomide, on revient juste après.
Thank you.
C'était Droit de l'homme d'Antoine Agbepa dit Kofi Olomide qui n'est plus à présenter. Je rappelle que nous avons dans cette émission Pascal Moulegua, il est journaliste et il est correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Maître Ami Massengou, membre de la société civile du Congo central et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis. Abdourahmane Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. La région orientale de la RDC est plongée dans une grave crise humanitaire exacerbée par une recrudescence de la violence qui a contraint 250 000 personnes à quitter leur foyer en février, selon les hauts fonctionnaires onusiens qui a visité Goma, devenu un refuge pour les déplacés. Loin de la capitale nationale, Kinshasa, l'est du Congo est depuis longtemps envahi par plus de 120 groupes armés qui cherchent à s'approprier une partie des ressources de la région, tout en commettant des massacres. Le résultat est l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec environ 7 millions de personnes déplacées, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. Abdourahmane Dia, vous avez souhaité nous parler de ce sujet, on vous écoute.
Alors Guy, j'ai choisi ce sujet parce que la question des déplacés dans l'est de la RDC est un sujet très préoccupant et dans le contexte du début du retrait des troupes onusiennes, je pense qu'il faut commencer déjà à réfléchir sur comment on va régler cette question après le départ de la MONUSCO. Et bon, ne pas attendre le départ, mais comment déjà réfléchir à cela? Il y a plusieurs groupes armés. Dernièrement, c'est vrai, le M23 occupe un peu le devant de l'actualité, mais il y a tous ces groupes, les ADF et les autres groupes, et dans toute cette région, il y a tellement de déplacés, et malheureusement, les enfants paient le lourd tribut, les enfants et les femmes, les enfants qui ne vont plus à l'école dans ces zones, et je pense qu'il est important que les médias, nous en tant que journalistes, qu'on mette un peu l'accent sur ces questions humanitaires, parce qu'on a senti aussi bien dans les Grands Lacs, notamment dans l'est de la RDC, mais également dans des zones comme le Sahel, les organisations qui souvent tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'ils n'ont pas assez de fonds, parce que on sent un certain désengagement des principaux donateurs. Il y a aussi la question sécuritaire et les humanitaires, peut-être, qui n'arrivent pas à faire leur travail à cause de l'insécurité. Et c'est une question de responsabilité pour la presse de mettre l'accent sur cette question humanitaire, l'aspect humain de ces crises sécuritaires, aussi bien en Afrique centrale, dans la région du Sahel et ailleurs, le Soudan. On voit un peu aussi ce qui se passe au Tchad avec la crise soudanaise. Il est clair que le Tchad n'a pas les moyens d'accueillir tous ces réfugiés soudanais. Et on a vu récemment aussi OCHA et les autres organisations humanitaires dire qu'ils n'ont plus les fonds pour s'occuper correctement de ces réfugiés qui ont fui la guerre au Soudan. Donc j'ai choisi ce sujet pour qu'on aille même au-delà de la RDC et que qu'on sache qu'il y a un drame humain dans toutes ces crises. Et c'est important que nous autres journalistes, on continue de traiter cet aspect-là.
Oui, Abdourahmane Dia, on parle souvent des conférences, n'est-ce pas, des donateurs pour les pays qui sont affectés par des crises multiformes. Et quand vous voyez ce qui se passe en RDC, c'est un pays qui est éligible, n'est-ce pas, parce que c'est un pays qui est affecté, qui connaît, n'est-ce pas, une crise multiforme. Et pourquoi, à votre avis, au niveau mondial, on n'a jamais vu des organisations ou des pays prendre l'initiative d'organiser de telles conférences des donateurs?
Ça revient un peu à la critique qu'on entend depuis le début de la guerre de l'Ukraine, que les Occidentaux, par exemple, s'intéressent plus à ce qui se passe en Ukraine comparé à ce qu'on vit dans certains foyers de tension en Afrique. La critique, bon, elle est fondée, mais maintenant, il nous revient peut-être à nous, Africains, aussi, de nous battre pour que les problèmes que nous avons soient mise en exergue. Bon, Je pense que personne n'ignore aujourd'hui ce qui se passe dans l'Est de la RDC, sur le plan humanitaire notamment. Personne n'ignore non plus ce qui se passe dans le Sahel ou dans d'autres parties du continent. Nos autorités, mais également nos médias, doivent avoir cette capacité de lobbying et de se battre pour que ce sujet-là soit au top de l'agenda, disons, des institutions internationales. C'est un débat qui revient pratiquement chaque année. C'est vrai que les Occidentaux, l'Ukraine, je pense que c'est une évidence. Hein. On n'a pas besoin de... Tout le monde sait que les moyens qui ont été mobilisés, par exemple, pour l'Ukraine, ne sont même pas comparables à ce qu'on a vu en Afrique. Mais je pense qu'on ne doit pas baisser les bras. Il est important que le monde entier vraiment voit ce qui se passe dans l'Est de la RDC, et c'est un peu ces drames humains-là qui peuvent peut-être faire la différence, qu'on voit ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de descendre sur le terrain pour nous autres. Il y a plusieurs aspects, notamment la question sécuritaire, mais je pense que chaque fois qu'on a l'occasion, il faut faire du tapage, il faut que les gouvernements aussi se battent pour que ces questions-là soient dans l'agenda des différentes institutions internationales, l'ONU, le G20, et qu'on ne parle pas que des crises comme l'Ukraine, hein, ou ce qui se passe à Gaza. Je suis pas en train de dire que ce ne sont pas des crises importantes, mais il faut aussi que ce qui se passe en Afrique puisse vraiment choquer au même niveau que ce qu'on est en train de voir à Gaza et en Ukraine.
Merci, merci Madame Annie Massengou. Face à cette situation, à ces phénomènes, au fait que l'assistance, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds arrive au compte-goutte en RDC pour se déplacer, que devrait faire les gouvernements congolais pour arriver, n'est-ce pas, à convaincre les bailleurs à apporter l'aide qu'il faut afin qu'on soit en mesure, n'est-ce pas, de répondre aux besoins réels de ces populations déplacées?
Merci beaucoup. L'aide ne doit pas premièrement ou en première position dépendre des bailleurs de fonds. Il faudrait que la RDC apprenne à se prendre en charge. C'est un État. Si on dit que l'État est souverain, c'est l'État qui est vraiment accompli. Il y a des gens qui errent à l'est de la RDC. Vous regardez les conditions dans lesquelles ils vivent, ça laisse à désirer. Nous entendons très souvent, il y a des détournements, et quand on parle de détournements, ce ne sont pas des petites sommes. C'est en termes de millions de dollars. Mais pourquoi n'est pas organisé? Il y a quelque part, nous, les restes de la population, nous nous disons que la RDC ne manque pas d'argent. Pourquoi n'est pas organisé d'abord soi-même, faire de son mieux pour s'occuper de sa population avant que l'extérieur ne vienne apporter son apport? L'apport extérieur peut être minime, mais déjà l'État lui-même doit être en mesure de prendre en charge sa population. Ils sont là, ils passent la nuit à la belle étoile, et c'est au vu et au su de tout le monde, mais personne, l'État congolais les a abandonnés. Moi je pense que l'État congolais doit d'abord lui-même commencer par poser des actes et les autres viendront en appui.
Merci, merci Pascal Moulegua. Nous allons finir l'émission avec vous. Comment vous réagissez à cet aspect évoqué par Madame Annie Massengou? Pourquoi la RDC, parce qu'elle estime que l'argent ne manque pas, pourquoi la RDC, le gouvernement congolais, n'arrive pas, n'est-ce pas, à s'organiser de manière à apporter de l'aide qu'il faut à cette population victime de la guerre de l'Est?
Non, il ne peut pas dire que l'argent ne manque pas. L'argent manque parce qu'aujourd'hui nous sommes, je crois, les 15, les 16 ou les 17, les fonctionnaires n'ont pas encore été payés, donc c'est pas à dire que l'argent ne manque pas. J'ai aussi entendu Mme Annie parler de la corruption. C'est là que j'ai pensé, pourquoi aussi ne pas faire de la corruption et du détournement des données publiques, des infractions qui peuvent être condamnées, voilà, qui peuvent pousser à ce qu'on vous inflige la peine de mort. J'y ai pensé. Mais quand même, pour ce qui est du drame humanitaire, dans la crise humanitaire en RDC, en chiffres, vous avez 100 millions d'habitants, l'écart est en situation d'insécurité alimentaire. Ça, c'est en dehors de la guerre. Avec la guerre, vous avez au moins près de 7 millions de déplacés. La communauté humanitaire a réclamait autour de 2,6 milliards de dollars pour financer en fait les plans de réponse humanitaire. 2,6 milliards, c'est trois fois plus que le budget de l'armée aujourd'hui et de la police réunis. Et donc, la communauté humanitaire aussi a cette impression d'une guerre en fait qui, qui n'en finit pas. Ça fait 30 ans en fait que les bailleurs de fonds aussi s'épuisent. Ils se disent, bon, la guerre de l'Ukraine, à mon avis, ça fait 2 ans. L'Europe est encore mobilisée, oui, on peut encore comprendre, mais croisons nos doigts pour voir si d'ici 5-10 ans, si cette guerre va persister et si les Européens auront la même tendance. Donc, il appartient déjà à l'État congolais en soi d'être socialiste. L'État congolais n'est pas socialiste. Quand on voit les plans de réponse humanitaire, c'est surtout les agences du système des Nations Unies qui investissent trop, et les bailleurs. L'État congolais en soi n'est fixé que pour un cas de naufrage intervenu au mois de janvier. L'État intervient 3 mois, 4, 5 mois après. Et même dans l'intervention, il y a aussi des détournements en fait qui s'y opèrent. Ce sont des choses que même l'IGF déplore ouvertement. Donc cette crise, ce n'est pas aussi que le nombre de déplacés. Vous avez aussi 1,5 million de réfugiés. Vous avez des cas de violences sexuelles que l'UNFPA recense régulièrement. Ceci, justement, devrait pousser l'État à mettre les bouchées doubles pour résoudre les conflits armés dans l'Est du pays. Et il n'y a pas que l'Est, ne parlons pas que de l'Est. Il y a aussi Akwamut, n'oublions pas. Il y a aussi les Kassai, malgré 7-6 ans après...
Il y a Kisangani.
Voilà. Vous avez aussi Kisangani.
Les Mbole d'Angola.
Vous avez aussi Kinshasa, les Mobondo, ils sont juste à Maluku. Vous avez même Kinshasa ici, il y a des milices. Vous avez les Kuluna qui sont là-bas, qui amputent les gens des jambes, il y a des bras. Donc, l'État congolais doit être réformé. Et donc, espérons en fait que pour ce deuxième quinquennat, que Tshisekedi quittera le pouvoir, avec plus de réformes, laissera un État déjà debout, avec tant de réformes, même au niveau aussi de la réforme des finances publiques et de la gouvernance sécuritaire.
Merci.
C'est tout ce qui manquerait à l'État.
Merci, c'est avec ces souhaits que nous terminons cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Annie Massengou, Monsieur Abdourahmane Edia et Monsieur Pascal Moulegua. Merci aussi à Pierre Diassinois qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka ainsi que de Mimi Kindou sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Coco Madimba de Wenge Musica BCBG. On se retrouve le samedi prochain.
Coco Madimba. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Samy m'a dit, bébé Madimba, Jean Zola.
Banina moba keneki mobembo bandoni, yaya mobembo kei monda popopo. Devi nandako akoma kotu mitama. Mama pokwa, pokwa donite.
Madera agence, c'est la classe.
Eh anonini na pesa na mwana poko na ngo Madimba.
Promesso pesa ki le gamene ya bolingo poko. Oke juka tira poke me penati kayo. Pena de koni, yo kende yo so matate.
Kapula, Mamilu Zizila, Yerebinda.
Poko Madimba, Yoka Matia, Napoli, Moyo Pesi, Konanani, Sokia Lima, Kina, Berekomi, Abuete, Yoka Matimo, Kano, Koko, Tena, Zimanangai, Kase, Bonga, Kiyo, Zela, Kino, Napo, Donga, Kaeo, Mobali.
No, solo mobe.
Ela papa de Nibali, papa si bisemoni, papa me sana polo makatina de na yo. Lela e koni ya mui madima na posipe. Eko na kuta ki solo kona moli mwango, una respe polo ma.
Olinga na tosa lisa na tosa liba sobe kolo moko yawe. Atina biso tolinga na yawe pesa Limisa ni bango adomu shangi Mabati bozunga le mutombo Kosa shake merariete mama Mabati bozunga kle mamu benga Kachushima
Kati mama shari oye bisa bebine Mako ya nake mota kote
Jangan lupa like,